Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon-Pierre et d'André. Or, la belle-mère de Simon-Pierre était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approche, il la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Voilà, nous sommes dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 29 et 30. Je voulais vous accueillir avec ces passages de l'évangile de Marc. Jésus a été baptisé, il a appelé ses disciples, il a été reconnu comme étant fils de Dieu par un démon. Donc les choses se mettent en place. Et la première des choses que Jésus va faire dans son ministère, eh bien, ça va être de guérir cette femme et de la faire se lever, c'est-à-dire qu'il la ressuscite en d'autres termes. Et là, on a peut-être la clé de lecture de l'évangile de Marc en particulier, mais des évangiles en général aussi, évidemment, c'est de savoir que le message dont la Bible est porteur, eh bien, c'est un message de vie, essentiellement un message de résurrection qui nous concerne non pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous vivrez ce message non seulement au cours de ce culte, mais aussi dans les jours à venir, évidemment. Vous ayez cette notion, ce sentiment d'être appelé à la vie et à l'éternité, évidemment. Alors soyez bienvenus avec cette parole de Marc. Qui que vous soyez, pour ce culte un peu particulier, puisqu'il y a l'Assemblée Générale, le culte sera beaucoup plus court, il n'y aura pas de spontané, hein, pour comprimer un petit peu tout ça, mais j'espère que vous aurez quand même un moment de méditation qui puisse vous nourrir pour les jours à venir. Je souhaite la bienvenue à ceux qui n'ont pas l'habitude de venir dans ce temple, en particulier à la brochette de Lyonnais qui sont quelque part par là, mais aussi peut-être à d'autres. Sentez-vous vraiment chez vous dans ce temple, véritablement comme si vous étiez des habitués de cette maison. J'espère que pour les chants, vous avez les cantiques marrons, il n'y a pas besoin des bleus. Et tout de suite, nous prendrons le psaume 67. Et moi, je n'ai pas de cantique. Père, nous voudrions te remercier pour ce temps mis à part, pour ce moment de grâce qui nous est offert, ce moment de méditation. Merci aussi pour ce temps d'Assemblée Générale qui nous permet, à partir d'une année vécue, de voir se discerner le futur. Père, tu sais que dans nos vies, nous avons besoin de toi pour vivre, besoin d'entendre des récits comme la guérison de la belle-mère de Pierre. Mais au-delà de ce récit de résurrection, La lecture de l'Écriture est là pour nous apporter joie et lumière. Au moment de vivre ce moment de partage, Père, ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Et je vous invite à entendre un passage. C'est un passage qui nous était d'ailleurs recommandé à la lecture pour aujourd'hui. Mais comment résister à un tel appel, puisque c'est le livre de Jérémie au chapitre 31, des versets 31 à 34. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. » Père, merci pour cette parole de grâce, qui est inscrite dans l'Écriture bien avant la venue de Jésus-Christ et de sa prédication. Amen. Voilà, nous sommes au seuil de Pâques. Vous savez que la semaine prochaine, c'est celle qui arrive, mais la suivante, dans 8 jours, c'est la semaine sainte. Et donc Pâques arrive avec tout ce que comporte ce message. Mais je trouve que c'est intéressant, effectivement, d'entendre aujourd'hui cette annonce de la nouvelle alliance par Jérémie. Alors évidemment, nous sommes dans un texte juif, ça va de soi, c'est un texte assez fort, parce qu'il a été pris plusieurs fois et repris plusieurs fois par les grands prophètes, par Ésaïe, Ézéchiel, entre autres, qui eux aussi ont annoncé une nouvelle alliance. Comme si on avait chez ces prophètes cette idée qu'il faut sans cesse renouveler une parole forte pour que les hommes puissent en vivre, et en particulier les hommes d'Israël, ça va de soi. Donc c'est un texte qui est puissant et c'est un texte qui est essentiel. Alors la loi qui était le fondement de la première alliance, et reste toujours importante, évidemment. D'abord parce qu'elle est liée à la libération d'Égypte. Alors, qui dit libération, dit déjà une certaine manière d'être par rapport aux forces qui sont oppressives. Mais la loi ordonne, la loi, elle permet de vivre aussi, elle organise la société. Dans l'anarchie la plus totale, c'est toujours le règne des plus forts, évidemment. Elle permet aussi, cette loi, une survie face au monde. Les Hébreux, qui sont un tout petit peuple, je vous rappelle que le territoire d'Israël, c'est peut-être l'équivalent de 3 départements français, ou 4, parce que quand on pense à Israël, on pense à un pays qui peut-être assez grand, mais c'est vraiment minuscule. Et bien la loi permet à ce tout petit peuple d'Israël de vivre, de traverser l'histoire, même si dans l'Antiquité, ils étaient proportionnellement beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette parole, cette loi est d'abord une parole de liberté. Hein, écoute Israël, je t'ai libéré du pays d'Égypte, etc. Mais c'est vrai que cette loi, en dehors des 10 paroles, elle comporte 613 commandements. 613 commandements, et non seulement il y a ces 613 commandements, mais il y a en plus des prolongements à ces commandements, des explications qui sont là pour dire comment vivre ces commandements. Ce qui fait qu'en fait, si on regarde à la loi jusque dans son détail, on s'aperçoit que les directives sont extrêmement nombreuses, elles sont de l'ordre de plusieurs milliers, 2 ou 3 000. Commence à faire compliqué. Là, on a un vrai code d'Alloz. Pour ceux qui font du droit, ça doit leur rappeler quelque chose avec tous les articles qui sont là. Le problème de cette loi, qui est une loi de liberté dans son fondement même, puisque c'est le prologue des dix paroles, je t'ai libéré. Le problème, c'est qu'avec toutes ces obligations, ces complications et ces prolongements, on crée facilement des définitions de dans la loi et de hors la loi. Et donc des obligations. Et des obligations qui sont parfois difficiles à suivre. Alors c'est vrai que la loi définit le peuple comme le peuple de Dieu. Cette loi elle a été donnée à Moïse et aux Hébreux. Donc le peuple qui suit cette loi, qui la vit, est vraiment le peuple élu. Mais là aussi, il y a des risques, non seulement la difficulté de suivre cette loi, comme je viens de le dire, mais aussi peut-être une certaine morgue aristocratique qui est un peu insupportable, puisqu'il y a les élus de Dieu, le peuple élu, puis à côté, il y a les goy, les autres qui sont là. Ça peut aussi créer un formalisme de surface, finalement, et avec des risques d'infidélité au final. Alors certes, tous les Hébreux de l'Antiquité n'ont pas été comme ça, loin de là, ça va de soi, je veux dire. Sinon, nous n'aurions pas eu la transmission de l'Écriture de la Première Alliance. Mais il y a ce risque qui est là. C'est un risque, d'ailleurs, qui guette tout un chacun lorsqu'on est sûr d'avoir une part de vérité, si ce n'est la vérité entière, ou de faire partie d'une caste un peu spéciale. Je me méfie toujours un petit peu des libéraux, dont je fais partie, pensent, parce qu'ils ont la liberté de raisonner les textes, de remettre en cause les dogmes, d'essayer de les comprendre, et peut-être aussi de les modifier, de ne pas les suivre, risquent d'avoir aussi ce type de comportement aussi, d'une certaine manière. Donc c'est une interpellation qui est finalement pour tout un chacun. C'est peut-être pour ça que Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel et les autres se sont dit, il faut renouveler cette alliance, rappeler le fondement même de cette alliance, finalement, de cette loi, qui n'est pas un formalisme quelconque, mais qui est une loi qui doit toucher l'individu, au fond même de l'être. J'inscrirai dans votre être ou dans votre chair, dit Jérémie. Cette loi mérite d'être là, renouvelée dans la chair des gens, dans la vie, dans l'être des gens, comme étant une parole de vie, véritablement, au cœur de l'humain. Une parole de vie au cœur de l'humain. Vraiment une parole, c'est-à-dire un discours, une parole qui interpelle, qui remue, qui secoue et qui permette à la personne de se réveiller et de repartir éventuellement. La parole de Jérémie, telle qu'il la présente, cette nouvelle alliance, elle est assez extraordinaire puisque non seulement il dit, voilà, ça va être au cœur de votre vie que ça va se passer, mais surtout il y a le pardon qui est là. Vos fautes, je les oublie, je pardonne, il y a la grâce qui est là. Il n'y a pas de répression et il n'y a pas de peur non plus, évidemment, de peur de bien faire ou de mal faire qui pourrait éventuellement nous paralyser. Il n'y a pas d'obligation non plus. Ça qui est extraordinaire dans cette vision du prophète Jérémie qui fait que ce prophète est qu'un personnage véritablement à part dans l'ensemble de la première alliance. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus s'inscrit dans cette veine prophétique de ce grand prophétisme. Il va reprendre la loi, il ne va pas la rejeter, évidemment, il ne l'a jamais fait, mais il va l'élargir. Il va l'élargir dans son esprit jusqu'au monde. Il va l'élargir jusqu'à nous aujourd'hui, finalement. Tout un chacun qui sera face à Jésus entendra une parole qui va le faire vivre, comme cette femme, la belle-mère de Pierre, mais tant d'autres après, les aveugles, les boiteux, les gens qui sont exclus, incompris, qui sont en marge de la loi précisément, et peut-être aussi des pharisiens, aussi qu'on pointe souvent du doigt, mais n'oublions pas Joseph d'Arimathée par exemple, ou Nicodème, enfin il y a un certain nombre de personnages comme cela qui rencontrent Jésus, parce que la loi pour eux La loi pour eux est une parole qui va faire vivre, même si on la discute, comme ce débat qu'il y a autour du baptême, hein, de la nouvelle naissance dans l'évangile de Jean. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Dieu est là, précisément. Il est là avec une parole de vie, hein, qui ne nous demande pas d'apprendre à connaître Dieu, d'être vraiment dans la ligne, dans l'obligation, hein, mais nous avons à savoir que c'est le contraire. C'est Dieu qui va nous connaître. C'est Dieu qui vient vers nous, finalement, pour nous renouveler. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle, au fond, finalement, c'est ça. C'est le renouvellement de l'alliance annoncée par Jérémie, ce renouvellement qui est le renouvellement de l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple, évidemment, entre Dieu et le monde, et finalement le renouvellement de l'alliance dans la chair des hommes entre Dieu et nous aujourd'hui. Amen. Là, avant de chanter le deuxième cantique, il y a une erreur d'affichage, c'est de ma faute. C'est pas le 255, c'est le 173 qu'on va chanter. Je me suis trompé de registre, en fait. Voilà, préparez-vous donc à prendre le 173 et pas le 255. En attendant, je vous fais part des annonces. Nous avons vendredi prochain les JMJ, les jeunes et moins jeunes, ou jeunes ménages et jeunes, c'est comme vous voulez. Nous sommes dans une réflexion sur les mythes et nous verrons le mythe de Sisyphe. Voilà. Autrement, nous avons vendredi, samedi 28, la vente de livres. Vous le savez, donc ici, ça va devenir une grande librairie avec de quoi prendre le thé, et des gâteaux aussi, évidemment. Vous aurez le plaisir de rencontrer Persos et normalement Crevé aussi, donc, qui viendront signer leurs livres. Peut-être Patrick Cabanel, mais ça m'étonnerait parce que Toulouse est quand même un petit peu loin, et qu'il a pas mal d'occupations surtout. Donc voilà. Donc voilà nos occupations. Dimanche prochain, vous aurez le plaisir, j'espère, de partager le culte avec Laurent Gagnebin. Et donc c'est le culte des rameaux, je vous le rappelle. Alors demain nous avons malheureusement un culte de reconnaissance. Françoise Claire Mottet étant décédée, donc demain elle sera au lieu de ses obsèques et à 10h30 il y aura un culte ici dans ce temple. Un peu plus loin, si vous êtes intéressé par l'histoire, ce que j'espère évidemment, vous avez une conférence de Franck Lestringant le jeudi 16 avril à 18h à rue des Saints-Pères, à la bibliothèque du protestantisme. Le titre, c'est « Un protestant du grand large, Guillaume le Testu et sa cosmographie universelle, 1556 ». Et alors, Franck Lestringant, c'est vraiment du très très bon. Vraiment. C'est pour ça que je vous le signale tout particulièrement le 16 avril à 18h. Vous pouvez me retrouver tout à l'heure. Je vous rappelle dans les annonces que nous avons l'Assemblée Générale dans 5 minutes à peu près. Ceux qui sont membres, donc inscrits depuis avant le 31 décembre de l'année passée, vous êtes membres de cette Assemblée Générale, vous pourrez y assister et voter. Ceux qui sont de passage, qui veulent rester ou qui sont dans la paroisse depuis le 1er janvier, bien vous pouvez assister à l'Assemblée Générale, vous pouvez prendre part au débat, mais vous ne pourrez pas voter. C'est tout. Voilà. Hein, mais on aura le plaisir éventuellement de vous entendre si vous avez des réflexions ou des souhaits ou que sais-je encore. Surtout qu'un œil extérieur n'est pas inintéressant. Voilà. Même s'il nous reste que 3 minutes avant l'Assemblée Générale, vous n'allez pas échapper à l'offrande. Ça, ne croyez pas que vous allez vous en tirer à Simon Comte. L'offrande, c'est un acte liturgique, c'est un acte d'église, hein, faut pas l'oublier, c'est une forme de témoignage aussi, hein, ça va de soi. Donc il faut y participer comme on doit participer à un témoignage avec un certain enthousiasme, avec et sans jeu de mots. Donc pendant ce moment d'offrande, je vous invite à prendre le 173 « Nos cœurs te chantent ». Voilà, dans notre prière, nous pensons évidemment à l'Église, notre paroisse, puisque c'est l'Assemblée Générale, on peut la présenter à Dieu dans nos pensées, mais aussi l'Église en général, la grande Église universelle, avec toutes ses dénominations, ses joies, puis aussi ses soucis, puisque nous savons qu'il y a des pays où l'Église est en très mauvaise posture. Pensons aux familles qui sont dans la difficulté, puisque nous avons évoqué Clermotté. Et puis pensons à celles qui sont aussi dans la joie, puisque certains d'entre vous m'ont parlé d'une naissance d'un enfant qui vient d'arriver ces jours-ci. Donc c'est toujours un moment d'espérance et un grand, grand plaisir. Puis vous avez des parents, des amis, je suppose, auxquels vous pensez évidemment. Notre Père, toi qui es au cœur de notre vie, ton nom est magnifique. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde. Que ta parole nourrisse chaque être humain, donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Vous êtes porteur de la nouvelle alliance. Elle a été annoncée par les prophètes. Elle a été dite en Jésus-Christ, elle est portée par nous. Soyez les prophètes donc du Très-Haut, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous, maintenant et à jamais. Amen. Brigitte. Thank you.